Chers auditeurs de Radio Sainte-Anne, nous nous retrouvons aujourd'hui à Questinic chez le père Marcel Blanchard, recteur donc de cette paroisse. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le père Blanchard n'est pas un prêtre qu'on trouve dans les coins dans certaines paroisses. Il s'intéresse tout particulièrement à la musique bretonne. Il est passionné de musique bretonne, mais pas n'importe quelle musique bretonne. C'est surtout les cantiques anciens qui le passionnent, la musique d'autrefois qui le passionne, et tout ce qui était bien sûr rattaché à notre terre, tout ce que les Bretons ont composé comme musique eux-mêmes dans leur terroir. Père Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes prêtre, vous êtes recteur de Questinic. Avant de parler justement de votre passion, vous allez un peu vous présenter.
Passion, c'est pas le mot qui convient, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Oui.
Alors, Père Blanchard,
oui.
Qui êtes-vous ?
Eh bien, je suis né à Gourin en 1923, ici donc dans ma 70e année. Et alors, j'ai fait mes études donc à l'école Saint-Yves de Gourin, où j'ai déjà entendu un petit peu chanter du breton, mais j'y viendrai tout à l'heure. Ensuite, donc, je suis entré au grand petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray, en 1934, jusqu'à 1940, où alors j'ai baigné dans le cantique breton du pays de Vannes. Gourin, c'est la Cornouaille, c'est pas du tout la même façon de prononcer le breton, et c'est pas tout à fait non plus les mêmes cantiques. Hein. Mais j'ai été séduit, je dois le dire tout de suite, par le répertoire des cantiques bretons du pays, ce qu'on appelle pays de Vannes, quoi, qui va de Vannes, bien sûr, jusqu'à Pontivy, et même jusqu'à Guémené, tout ça, c'est le dialecte vannetais. Il y a quatre dialectes. Et alors, ensuite, au grand séminaire de Vannes, où on ne m'a pas beaucoup appris à chanter des cantiques bretons, parce qu'il y avait les confrères du pays gallo qui étaient là, et alors, on n'admettait pas beaucoup qu'on chante des cantiques bretons au grand séminaire. C'est un petit peu triste, je le dis quand même. Maintenant, ça ne se pose plus de la même façon, bien sûr. Ça remonte quand même déjà à 50 ans. Alors, ensuite, mon itinéraire, j'ai donc été ordonné prêtre, après le service militaire, bien sûr, en 1947. Professeur à petit séminaire de Sainte-Anne, pendant un an. Ensuite, à Luc Michelic, où j'ai été vicaire instituteur pendant 12 ans, de 48 à 1960. Ensuite, vicaire à Lanester, toujours dans la région, dans la partie bretonne quand même, là où on parle le breton, quoi. À Lanester de 60 à 66, et ensuite à Pontivy, vicaire de ville, mais là où j'ai eu à m'occuper justement d'un groupe folklorique paroissial, de 66 à 71, et ça fait maintenant donc bientôt 22 ans que je suis recteur à Questinic, dans une paroisse, bien sûr, où on parle beaucoup le breton, où on chante beaucoup le breton, parce que j'ai quand même maintenu justement le répertoire du cantique breton.
Vous dites que ça fait 22 ans que vous êtes dans cette paroisse.
Bientôt, oui. Pas tout à fait encore.
Vous y êtes bien attaché, alors.
Oui, je me suis attaché partout où je passais. Et alors, 22 ans, bien sûr, bon, maintenant, ben, ce sera sans doute mon dernier poste. Hein. Je n'envisage pas d'avoir de l'avancement maintenant. Mon avancement, ce sera, s'il plaît à Dieu, ma résidence secondaire qui est dans le cimetière de Questinic. Hein. Il y a de la place pour moi là-bas. Je me trouve bien ici, bien sûr.
Où se trouve Questinic ? Vous pouvez situer un petit peu Questinic ?
Questinic est sur les bords du Blavet. J'ai m'a dit que je suis le recteur le plus riche du monde en bordure de Blavet. Je blague, bien sûr. Hein. Il y a à peu près 16 km de bordure de Blavet. Et le Blavet fait son coude ici, descend donc nord-sud, et puis alors à Pont-au-Gand, il coule donc est-ouest pour aller donc vers le Christ. Et puis, c'est évidemment donc du rural. Le pays n'est pas très, très peuplé, il y a assez grande étendue, 1400 habitants, mais des personnes plutôt âgées quand même, où l'on parle encore beaucoup le breton. Les activités, les emplois, c'est la terre, bien sûr, et puis quand même pas mal d'ouvriers également ruraux qui reviennent d'habiter ici, qui sont dans quelques villes environnantes, et puis même jusqu'à Lorient, quoi, même l'Arsenal, et puis dans le bâtiment également. Oui.
Alors dans ce milieu breton, dans cette terre bretonne, vous êtes à votre aise, particulièrement à votre aise, et c'est justement dans cette terre bretonne que vous êtes découvert cet intérêt.
Moi j'étais à mon aise partout, à Pontivy aussi, à Lanester aussi. Je dois dire que bon Dieu m'a permis que je me fasse là où j'étais. Bon, on m'a envoyé ici, mais j'ai épousé les réalités de Questiniquoise, et puis je m'y trouve bien en effet, c'est vrai, oui.
Mais tout de même, il y a une importance. C'est à Questinic que vous avez découvert cet intérêt pour la musique bretonne, pour les cantiques bretons.
Non. Ah, c'est une bonne question aussi. Hein. Je crois pouvoir dire que je suis quand même sensible à la musique depuis tout le temps. Hein. Je dis en blaguant qu'à 7 ans, je composais des airs de Jugement dernier sur les notes du clairon. Hein. de toute simple. Mais souffle, le premier, hein. Le premier choc de la première impression de la musique bretonne, ça a été dans ma paroisse natale, donc à Gourin, au mois de mai, peut-être quand j'avais 9 ans, ma maman me disait « Va donc au mois de Marie ». Alors le mois de Marie, c'était entièrement en breton, hein, à cette époque-là, même à Gourin, mais il y avait des cantiques bretons. Alors évidemment, pendant, je ne comprenais rien puisqu'on ne m'avait pas appris le breton, mais je vibrais lorsque l'on chantait. Et j'ai entendu ce cantique-là, qui m'est resté, je peux le chanter juste un petit peu comme ça. Ni au Kémer, Marie, Evitormam. Je trouvais ça superbe. En Vanté, on dit Ni au Tchemer, Marie, Evitormam. C'est pas tout à fait même. On palatalise, quoi. Hein, mais les gens du Vanté connaissent, c'est un cantique que tout le monde connaît dans le pays de Van. Alors, ça, j'avais dit, mais enfin, oh! Parce qu'à l'école, donc, on chantait quelques petits cantiques français, bien sûr. On a dû chanter une fois aussi un cantique de Noël. Mais ça, c'était ma toute première impression. J'ai vibré. Il n'y avait pas de télévision à cette époque-là. Hein. Il n'y avait pas de radio. On écoutait donc de musique que ce qui était produit, les chants qui étaient chantés à l'école. Vous comprenez ? Et là, j'ai eu cette petite émotion musicale-là en écoutant un cantique breton dans la chapelle de la Vierge à Gourin en 1900. Bon, j'avais 9 ans, 1900, donc 31 ou 32. C'est assez vieux quand même. Alors ça, c'est ma première émotion. Donc, et alors après, là où j'ai eu j'ai été imprégné ou impressionné davantage par le cantique breton, alors c'est quand je suis venu au petit séminaire de Sainte-Anne de Rennes. Parce que là, les maîtres, le séminaire, donc imposaient quand même qu'on sache, qu'on connaisse bien le répertoire breton. Je l'ai là sous la main, justement. Donc, livre Kanenel, Kettentonjel, Est-ce que petit Jeunette, qui venait d'être fait puisqu'il a été publié en 1933. Enfin, amélioré. Il y a une édition avant qui était de 1923, déjà très bonne, et l'édition avant, c'était de 1901, encore un peu plus ancienne, et alors moins, peut-être, moins travaillée. Et alors, nous avions tous obligatoirement ce petit livre-là. Je ne l'ai pas perdu depuis. C'est mon livre quand j'étais au petit séminaire. Hein. Et alors, une chose assez curieuse, on allait à la messe tous les jours. Hein. C'est normal dans un collège chrétien, la plupart des gens dans un séminaire, quand même, qui prépare des prêtres. Et alors, deux fois par semaine, on chantait des cantiques. Et un jour, c'était le cantique français, c'était que des cantiques français, et notre jour, c'était que des cantiques breton. Je ne sais pas si c'était le mardi ou le jeudi, c'était le mardi et le jeudi, mais je ne sais plus quand c'était le breton et quand c'était le français. Eh bien, moi, j'avais remarqué, donc, que je vibrais beaucoup plus au cantique breton qu'au cantique français. Et pourtant, le cantique français, à l'époque, c'était donc Shannon Pirieux qui avait fait un très bon livre, donc, il y avait des choses intéressantes. Donc, et figure-toi, Sire, qu'un jour, à une réunion d'anciens de Sainte-Anne, j'aurais posé cette question. Ah, je voudrais vous poser une question, puisque je suis intéressé quand même pourquoi le cantique breton touche-t-il ainsi, pas seulement les bretonnants, mais tout le monde, n'importe qui, hein, même des étrangers, même, là, autrement dit, les mélodies bretonnes. Et alors, comme j'avais senti que je préférais les cantiques bretons aux cantiques français, je lui ai posé la question. Dites donc, là, je voudrais vous poser une question. Vous savez que je m'intéresse à la musique bretonne, aux confrères, donc aux anciens de Sainte-Anne, qui sont prêtres, on y était il y a presque 50 ans. Quel jour préfériez-vous ? Le jour où c'était les cantiques bretons, ou bien le jour où c'était les cantiques français ? Oh, Marcel, mais tu sais bien, tout le monde préférait le jour où c'était les cantiques bretons. Je leur ai dit, mais pourquoi ? Va-t'en savoir, ils m'ont répondu. Parce qu'ils n'avaient pas réfléchi là-dessus. Et moi, j'ai quand même...
Mais n'est-ce pas aussi parce qu'ils étaient habitués à la langue bretonne ?
Mais absolument pas ! Dans les paroisses, on ne chantait plus tellement en breton. À Gourin, on chantait pas... Et puis, c'était pas le même breton. Il y avait évidemment des paroisses rurales où on chantait en breton, mais il y avait des paroisses urbaines où on ne chantait pas breton. Or, il y avait quand même pas mal de séminaristes, donc, qui venaient de la ville aussi. Mais tout le monde, et c'était pas non plus par l'amour de la langue bretonne, parce qu'on avait des cours de breton, mais... Oh, c'était pas tellement bien fait. C'était, à mon avis, c'était pas la langue, c'était la mélodie bretonne qui intéressait, donc qui touchait le cœur, qui touchait l'âme, et qui touchait pour la prière également. Même si on comprenait un petit peu quand même. Ah, ne mets pas en doute ce que je dis là. Hein. c'est après que j'ai réfléchi là-dessus, mais là j'ai été imprégné. Il y a combien de cantiques dans le... Il y a 120 cantiques, on ne chantait pas les 120 ou 125, hein, ça termine par « Revoue me l'être ». Vous mérite un truc que tu as entendu sûrement.
Oui, très connu, oui, très connu.
On chante à la fin des vêpres et puis des saluts de Saint-Sacrement. On n'a pas chanté les 122 cantiques, mais on a quand même chanté peut-être 50 ou 60 ou 70 quand même, selon les temps, les cantiques de Noël, les cantiques de Pâques, les cantiques de la Sainte Vierge, les cantiques de Saint-Sacrement, les cantiques donc à Sainte-Anne, bien sûr, aussi. Hein. Et alors... Alors, j'ai dit qu'au grand séminaire, on ne chantait pas beaucoup de cantiques. Bon, moi, j'ai été sevré de cantiques bretons, quand même, jusqu'à, il faut bien le dire, jusqu'à ce que je vienne à Kistinik. À Pontivy, on ne chantait qu'un seul cantique breton, et encore on le chantait en français, c'était le cantique « Ô Notre-Dame de la Joie ». Ô Notre-Dame de la joie, à toi nos cœurs, nos chants. Et c'est le cantique breton, quand on est labouré, ah. La caille de grèche, qu'une aube ne douée, reblée à dire par cœur, qui est chanté quand même dans beaucoup de paroisses encore. Alors l'air avait été trouvé tellement beau que quelqu'un avait pensé à mettre un cantique à Notre-Dame de Joie, qui est la patronne de Pontivy, tu sais, et le cantique est superbe, même en français, hein, je le reconnais. Le plus souvent, ils sont les cantiques, les mélodies bretonnes sont quand même plus belles quand elles sont chantées en breton plutôt qu'en français. C'est pas toujours très heureux de mettre des paroles françaises sur des cantiques bretons. Ça a été fait. Je sais pas si tu connais le recueil de cantiques diocésains, pas le dernier, mais l'avant-dernier, qui a été fait dans les années, je sais pas moi, 50 ou 60.
62.
62. Ah bon, tu le sais. Eh bien, il y a des cantiques. Français sur des airs bretons, et puis il y avait une partie également des cantiques bretons sur les mêmes airs bretons. Et alors on chantait par exemple Jésus qui vit aux cieux et règne près de comprendre, et c'est le cantique breton Jésus pécaire brasé, plija du règne. Excuse-moi, mais il est plus bon breton qu'en français, parce que, et ça, il y a une raison à cela. C'est parce que...
On peut dire que la mélodie est adaptée au chant ?
Pardon ?
Est-ce que la mélodie est adaptée au chant, peut-être ?
Mais c'est le chant qui... tu veux dire quand on le cantique a été fait ?
Que le chant en breton, quand il est chanté en breton, il a un effet beaucoup plus important quand il est chanté en breton qu'en français.
Oui, mais c'est pour...
Par rapport à la mélodie ?
Mais là, tu poses une question qui pourrait être assez difficile. Est-ce que tu crois qu'on a fait la mélodie et ensuite des paroles, ou bien l'inverse ?
Bah, les deux en même temps.
Non, je crois pas. Justement, hein. On a mis des paroles bretonnes sur des airs qui préexistaient, puis dont les paroles ont changé en cours des années. Alors évidemment, on a fait la même chose pour le français, mais le français, c'est une langue qui n'est pas consonante. Il n'y a pas de syllabe à la fin des mots. Hein. Si tu prends par exemple, c'est une petite chose technique, mais ça va peut-être intéresser les auditeurs quand même. Si tu dis
bien sûr.
Pain, rond, pu, hein, pain, pour un mot de nouveau, pain, rond, pu. Bon, pain, un, rond, on. Si tu es occident, tu diras pagne, rompu. Il y a donc pagne, rompe. Hein. Et dans le breton, il y a des consonnes non seulement au début de la syllabe, mais à la fin de la syllabe aussi. Splan, par exemple. Splan. Hein. Bon, il y a des consonnes avant. Il y a beaucoup plus de consonnes dans les mots qu'en français. Et c'est ce qui fait que c'est plus consonant, comme on dit. L'articulation est plus belle. Donc c'est une des raisons. C'est pas la seule. Et puis en français, il y a également des nasales, hein, des choses comme ça. C'est moins facile. N'empêche qu'il y a quand même de très grands compositeurs qui ont fait de très belles choses donc en français en musique. Mais enfin, c'est quand même pas une langue aussi chantante que l'italien, l'allemand, même que l'anglais et que le breton. On peut dire ça sans être chauvin.
Sainte-Anne et le Père Blanchard nous parle des cantiques bretons. Oui. Alors vous reprenez, qu'est-ce que vous aviez donc, qu'est-ce qui vous a intéressé donc le plus au grand séminaire? Ah oui, vous êtes arrivé à Kistinik donc.
Oui.
Je reprends là, vous êtes arrivé à Kistinik.
Oui.
Donc vous faites le travail de prêtre et quand vous êtes-vous vraiment mis à vous intéresser?
Ah ben dès le début parce que il faut que je dise aussi que à Pontivy donc je m'occupais de la Kerlen Pondy, tu sais, des bombards, des bignots, donc, les sonneurs, et puis également des danseurs. Et alors, j'ai fait la connaissance là-bas de Jean-Claude Jégat. Je ne sais pas si tu connais cette cassette,
oui, oui.
Il a fait plusieurs cassettes.
Oui, bien sûr.
Excuse-moi de dire ça, je ne vais pas faire le prétentieux, mais enfin, quand je l'ai connu, il sonnait admirablement. Je ne lui ai pas appris à sonner, mais il ne connaissait rien des airs bretons. C'est moi qui lui ai donné tous les airs bretons, sauf celui de Pontivy. Alors, je lui ai donc appris les airs, d'une part, et puis je crois aussi que je lui ai appris donc à les sonner, quoi, avec la sensibilité, donc avec un beau phrasé. Et là, c'est la technique de la bombarde qui permettait de faire des choses très, très filées, quoi, très lentes. Donc,
Alors, Podé, vous avez été un peu le professeur de Jean-Claude Jégat?
Professeur, c'est, le mot ne convient pas. Celui qui s'est trouvé sur son chemin et qui lui a donné donc, le répertoire breton, qu'il ne connaissait absolument pas, il ne connaissait rien des cantiques bretons. Et il a fait donc il a fait plusieurs cassettes. Et comme une avant que je parte de prendre. Non, c'est ici qu'il est venu de me demander. Il les avait déjà, donc je lui avais déjà appris pas mal d'air. Alors on a fait donc une première cassette en 71 et puis une autre encore en 73, je crois. Mais il venait me voir ici pour continuer d'être informé, quoi. Alors bon, je lui ai appris le solfège un petit peu, mais je lui ai pas appris. Il sonnait admirablement, c'est un sonneur, le meilleur sonneur qu'on ait jamais eu, et il sonnait avant que je n'arrive sur son chemin. Mais alors, je dois dire que quand on a fait passer à la radio pour la première fois les premiers enregistrements qui avaient été faits donc à Pontivy, comme ça, sur une bande, comme on fait ici, quoi, eh bien, à l'émission bretonne donc, du dimanche, eh bien, il y a eu donc une pluie de lettres pour demander où on pouvait se procurer le disque, croyait-on, ou bien de la cassette, il n'y avait pas encore été à ce moment-là, je ne sais pas trop, de ces cantiques bretons sonnés par Jégat. Et il a quand même contribué lui aussi à populariser les airs, les mélodies. Évidemment, il n'y a pas de paroles, parce que c'est la bombarde qui sonne. Tu les connais, ces choses-là.
Oui.
C'est moi qui lui ai donné ça, hein, qui lui ai donné le goût de ces choses-là, et puis alors le goût de la mélodie. Quoi.
Alors Jean-Claude Jégat, auparavant, c'était plus sur les chants profanes, alors
C'est les danses, surtout. Quoi. Il était sonneur de bagat, donc, et puis sonneur de coupe, c'est ça, il animait les fechtounos.
Et c'est par la suite qu'il s'est associé avec Louis Huel.
Voilà, ça s'est passé de mon temps.
Vous avez connu aussi Louis Huel?
Bien sûr que oui, parce que voilà comment ça s'est passé, ça intéresse de le savoir. Bon, alors... quand on a donc fait ce premier essai donc pour la radio à l'orgue de Pontivy et que ça passait, donc on a dit de
quelle radio à cette époque-là?
C'était la radio de Duplessis, donc à Vannes, quoi, la radio nationale, quoi, le studio de Nantes, quoi, le studio de Vannes, la radio, je sais pas comment ça s'appelait, moi c'était la radio Bretagne, quoi, mais enfin nationale, c'était pas la radio, c'est pas comment ça s'appelle. Bon, je me perds un peu, c'est des questions techniques que je ne possède pas bien. Et alors, je cherchais un organiste qui soit sensible aussi à la musique bretonne. Et c'est là qu'on a fait la rencontre, donc, c'était par ce monsieur Duplessis, qui était un technicien de la radio, qui connaissait monsieur Huel et qui a fait se rencontrer, donc Huel et Jégat, et moi je suis allé aussi, nous sommes allés enregistrer le premier disque à Guérande. Alors j'étais là en train de donner les tempos à Huel, mais il était aveugle, il a fallu quand même que je lui chante des partitions, donc que je le mette un petit peu au parfum, mais ça, lui, il prenait ça très très vite. Il était de Pont-Scorff, étant de Pont-Scorff, il était du pays Vannetais, donc il avait un petit peu dans la tête quand même une partie de ces airs là avant qu'il ne devienne aveugle. Il n'était pas avec de naissance, il avait baigné dans cette atmosphère-là. Alors, et je dois dire que c'était l'un des meilleurs qui est accompagné quand même, Jean-Claude, ils ont donné beaucoup de concerts ensemble d'ailleurs, donc uniquement avec des cantiques bretons. Voilà, pour la rencontre avec Yvel.
Alors vous êtes arrivé ensuite, donc vous étiez déjà à Kessénic, vous aviez continué de.
C'est ça, alors ici.
D'avoir des rapports avec Jean-Claude Jégat et Louis Yvel.
Oui, mais déjà, moi j'avais travaillé donc pour le cercle également, donc c'est une chose assez importante aussi. Là, j'ai mieux compris justement l'intérêt du cantique breton, de la mélodie du cantique breton, parce que j'ai étudié les mélodies des chants profanes bretons. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait donc, que c'était la même musique, quoi. Les savants, quand ils parlent de cantique breton, ils disent donc chant folklorique religieux, chant folklorique religieux breton. Chant folklorique, ça veut dire donc d'une culture populaire, religieux, parce que c'est pour l'Église, donc breton. Ça convient assez bien. Parce qu'à la différence d'un... Actuellement, on fait des cantiques, tu sais, nouveaux, toutes les 5 minutes, comprenez, hein. Bon, alors c'est quelqu'un qui se met à sa table, hein. Bon, il fait des paroles, ou bien trop des paroles, et puis il compose un air comme ça. Beaucoup d'entre eux sont morts, même avant que d'être nés, hein, avant d'être expérimentés. On fait beaucoup de cantiques, et puis ils sont même pas chantés, ou bien ils sont chantés pendant 3 mois, puis après... Tandis qu'ici, c'est des airs qui étaient parmi les gens, donc dans la tradition oral, qui se transmettait de génération en génération, qui pouvait être profane et puis qui recevait des paroles religieuses. Mais je donnerai des exemples très précis de choses là pour montrer justement que c'est la même source, que c'est la même inspiration. Et alors là, c'est là que je me suis. Alors, quand tu dis passionné, je me suis intéressé, j'étudie en profondeur, donc mon passion, je me passionne beaucoup de choses, hein. Je me passionne aussi de mon sacerdoce, hein, et puis de ma vie spirituelle quand même aussi, hein, et puis je me passionne de danse aussi, et puis le football pas tellement, sauf quand j'en faisais quand j'étais plus jeune, mais enfin, chacun ses petites passions, ce sens-là, le mot est bon, c'est-à-dire, je me suis appliqué à étudier ces choses-là, et puis je dis que nous avons un répertoire de cantiques bretons en Bretagne unique au monde. Il n'y a ça nulle part ailleurs au monde, de cantiques religieux. Je connais bien le répertoire anglais, je connais bien le répertoire allemand, parce que j'ai les bouquins, puis que je déchiffre, comprenez, puis j'étais en Allemagne donc assez longtemps, donc et j'ai étudié ça également avec des gens que cela intéressait. Bon, alors, le cantique allemand est pauvre en regard du cantique breton. C'est le cantique allemand a été rendu prestigieux par Jean-Sébastien Bach qui a fait des chorales là-dessus. Mais la ligne mélodique, le plus souvent, est loin d'avoir la richesse de il n'y a aucun pays qui ait une telle richesse mélodique pour les cantiques religieux bretons. Je l'affirme, je veux bien être contredit, mais j'attends
de faire. Écoutez, Radio Sainte-Anne vous propose de plusieurs émissions pour expliquer justement pourquoi.
Oui, moi je veux bien.
Pourquoi
veux
le
bien.
Cantique breton est aussi riche. Mais oui. Alors. Le cantique breton, vous disiez tout à l'heure, ça s'est traduit de génération en génération, de bouche à oreille.
Ah ben le cantique, j'ai pas dit cantique, j'ai dit les mélodies bretonnes.
Les mélodies bretonnes.
Attention, il y a eu aussi quand même des mélodies inventées, hein, par des prêtres ou des clercs, quoi, des gens qui avaient fait des études religieuses, qui baignaient très bien dans cette atmosphère-là, et puis qui en était pétri en quelque sorte, et puis qui faisait des choses également qui étaient pas mal. Attention, il faut quand même bien, on distingue bien quand même dans le fond, dans le répertoire du cantique breton, on voit bien que ce sont des cantiques très anciens, très très anciens, des cantiques donc moins anciens, des cantiques 19e siècle, on reconnaît un petit peu le style, mais même le style breton du 19e siècle est très beau aussi, hein, comme celui tout à l'heure que je chantais là, donc quand il nous rend de joie là, il est composé exactement comme je crois dans mon Dieu, c'est-à-dire on répète 2 fois la même mélodie, il y a un petit bout de changement, et puis on revient encore comme au début, donc enfin, c'est une structure qu'on retrouve également dans les cantiques bretons du 19e siècle, mais ils sont des cantiques bretons, avec une mélodie qui touche.
Alors les mélodies bretonnes ont toujours été des cantiques religieux ou c'était ça a été profane aussi?
Alors là, j'ai des amis avec qui je discute, par exemple, je ne sais pas si tu entends parler du Barzaz Breiz. Barzaz Breiz, c'est la ville marquée, Kermarker, donc, qui a collecté au milieu du 19e siècle des chants populaires, à la campagne comme ça, quoi. Et il en a fait donc un livre, donc on te l'a dit qu'il était aussi beau que les plus beaux livres donc, de l'Antiquité. On est. Et alors, mais il n'était pas musicien. Alors, il a fait venir des musiciens parisiens pour enregistrer ça, et ils n'ont pas bien compris dans le, quand j'étudie donc le Parsons Brace, donc la musique n'est pas toujours bien, bien enregistrée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on trouve encore dans la tradition, j'en ai trouvé peut-être moins maintenant parce que les anciens disparaissent, et puis il n'y a plus la culture populaire d'autrefois, la transmission orale, ça ne se fait plus à cause de cette télévision, comprenez, qui change tout, hein, bouleverse tout. Nous sommes maintenant à la fin de cette chose-là.
Est-ce qu'on peut dire que la télévision bouscule la tradition, la culture bretonne?
Complètement. Mais, et toutes les cultures, et c'est un autre ordre de choses, c'est un autre univers qui se met en place. On peut quand même bien vivre avec la télévision, la télévision peut s'assainir, mais au point de vue, sur le rapport de la transmission orale, ben évidemment, ça n'est plus possible. Hein. Les enfants n'apprennent plus rien de leurs grands-parents en musique. Ils apprennent tout par le baladeur, les Walkman, et puis par la musique qu'ils entendent là, et puis ce qu'on leur apprend à l'école. Ils n'apprennent pas ça de leurs ancêtres.
Est-ce que vous croyez que les jeunes peuvent s'intéresser aujourd'hui à la musique bretonne ou mélodie bretonne?
Mais bien sûr que oui, bien sûr. Enfin, là, tu poses un problème un petit peu donc grave. C'est celui donc dans Famille Chrétienne cette semaine, il y avait un article pour dire justement que la musique peut détruire. La musique peut déstructurer une personne. Les musiques, donc, certains rock, pas tous les rock, il y a des rock qui sont convenables, mais il y a des musiques lascives aussi, des musiques qui peuvent pourrir, vous savez. Et puis surtout, des gens qui n'entendent que cette musique-là, avec leur... C'est pas bon que de n'entendre que cette musique-là, donc à longueur de journée, ça peut les déstructurer. Et à l'inverse, une bonne musique, donc, structure, charpente une personne, la musique classique est très importante pour ça, mais la musique traditionnelle aussi, de tous les pays, pas seulement les musiques bretonnes, mais les musiques traditionnelles. Il y a eu une émission, une très bonne émission à la télévision là-dessus, je ne sais pas si... et qui avait lieu donc le samedi après-midi, j'en ai eu deux ou trois, donc j'ai vu par exemple donc une émission sur la musique traditionnelle en Alsace. Mais c'était intéressant, et c'était à peu près les mêmes... Et ils disaient bien que c'était une musique qui créait de l'ambiance entre les gens. Tout le monde chantait, et c'était une musique beaucoup plus gaie de ce point de vue-là. Donc la musique aujourd'hui est devenue plus triste, certainement, qu'autrefois, et moins conviviale. C'est-à-dire, elle ne permet pas aux gens de vivre ensemble. Et sous ce rapport-là, la musique bretonne est extraordinaire aussi pour danser, pour chanter ensemble. Le chanteur chante, et puis la foule reprend. Mais ça, c'est pas du cantique breton, ça. Hein. Mais c'est pour te dire, ça a quand même baigné là-dedans. Le cantique breton a baigné dans cette atmosphère-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand on était à l'église, bien sûr, on va quand même pas chanter des airs à danser. Hein. On va même pas chanter non plus des airs rigolos, comprenez des trucs comme ça, bien sûr, qui sont marrants, que j'aime bien chanter pour rire, pour faire rire. Mais à l'église, on prend un autre... C'est autre chose. Donc, et puis, mais il y a les ressources, bien sûr, pour faire de très belles mélodies religieuses, donc à partir des éléments donc, de musique bretonne.
Chaque situation avait ses mélodies, alors?
Bien sûr, oui. C'est très varié.
Y avait-il, pour composer ces mélodies-là, y avait-il un garde-fou, ou bien se permettait des exubérances?
Ah, là, tu poses une question. Moi, je suis persuadé que il y avait donc avant, là maintenant on n'a que des restes, hein, là il faut bien dire, on n'a que des restes de culture de populaire. Hein. Mais quand la Bretagne avait sa vie propre, était indépendante, qu'elle était autonome, et que dans le contexte du parler breton, il y avait des écoles de musique. J'ai trouvé des airs de musique là, qui étaient faits par des savants, des airs de musique qui remontent au 16e ou au 15e, peut-être davantage, et qui n'ont pu être composés que par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Et ça s'est transmis de génération en génération. Alors là, c'était des airs, donc, solidement bien faits. À partir de là, évidemment, il y a des gens aussi qui se sont mis... Il y avait quand même des gens qui inventaient à partir d'un fond... très répandu, il faut bien te dire donc, que les gens chantaient énormément, la mémoire était prodigieuse, il y avait des gens qui pouvaient avoir 300, 400, 500 chansons, et même davantage, et puis des choses écrites, ça pouvait être à des milliers, c'est prodigieux, ça on a perdu, c'est fini parce qu'on a des livres, hein, alors on ne prend pas la peine d'enregistrer dans la mémoire, comprenez, mais la mémoire était prodigieuse, ça c'est une chose qu'on étudie aussi, et là, sous ce rapport-là, donc, l'homme moderne est sous-développé au point de vue mémoire. Alors, c'est une question très intéressante aussi, de voir comment donc, toutes ces choses sont transmises de génération en génération, les contes, tu me parlais des contes tout à l'heure, avant qu'on ait commencé à enregistrer, les mélodies, les paroles, les histoires, même l'histoire dramatique. Il y a des gens qui m'ont raconté ici des contes aussi. Oui. Alors, c'est une chose très intéressante, mais il faudra qu'on vienne une prochaine fois.
Alors, Père Blanchard, vous nous expliquez comment se fait-il que vous êtes arrivé à aller jusqu'à faire des recherches sur la mélodie bretonne.
Oui. D'une part, donc, parce que j'avais fait des recherches profane aussi, des chansons d'amour en breton, hein, intéressantes. Et puis j'ai été éclairé, puis la façon de chanter surtout, mais ça je te parlerai une prochaine fois, la façon de chanter donc du cantique breton ressemble à la façon de chanter un peu du chant breton populaire, quoi, profane. Mais il y a une chose également qui m'a... Je m'interrogeais. Il y avait des gens qui disaient, mais comment se fait-il quand ils vantaient, sont toujours donc 6-8. Ta da da ti da 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 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et alors, je trouvais également que c'était pas. Et puis un jour, j'avais ici, donc j'ai eu la chance d'avoir comme aide au prêtre, au presbytère, une personne du pays qui chantait très bien. Elle est toujours vivante d'ailleurs, elle s'appelle Virginie Tréhin. Si elle écoute, elle sera contente de savoir ça d'ailleurs. C'est bien. Et alors, moi, je n'étais pas toujours en train de chanter des cantiques bretons, évidemment. Hein, mais enfin, quand j'attendais la soupe, là, ou bien après la soupe, je prenais mon livre et puis je lui demandais, comme j'avais été, Virginie, comment vous chantiez cette chose-là? Et alors, et un jour, j'étais en train de chanter ce cantique-ci, qu'on chante à Sainte-Anne-de-Ré d'ailleurs aussi, mais avec d'autres paroles là. Intron de santé, Anna, Guarana, tu connais, non? Non. Alors, Ave, Dom, Père, Gloire. Et alors, je prenais donc les paroles qui sont ici dans le cantique de 1933 et je chantais sur des tin, tin, ça s'appelle un 3-4, ça, hein, 3-4, trois noirs, quoi. Puis Virginie me dit, ah oui, mais nous on chantait pas ça comme ça. Ah non, on chantait comme ça à l'église paroissiale. Mais nous, les filles de la congrégation, tu sais ce que c'est que les filles de la congrégation? Autrefois, il y avait une congrégation de la Sainte Vierge. Toutes les bonnes filles étaient invitées, bien sûr, à se rassembler, donc une fois par mois, ou je ne sais trop combien, puis alors à faire des promesses, et puis il y avait des prières quand même aussi, ce qu'on appelle la congrégation de la Sainte Vierge, et elles avaient leur réunion à la chapelle Saint-Mathurin, ici dans le bourg, tu sais, il y a l'église paroissiale, et puis tout à côté, il y a la chapelle Saint-Mathurin, qui est très agréable, d'ailleurs, l'acoustique est excellente. Et alors, elles avaient, donc les jeunes filles avaient leur réunion là, donc périodiquement, mais il n'y avait pas d'harmonium. Et elles chantaient donc de tradition orale. Alors elle me disait, oh, à l'église, donc, il y avait un prêtre ou bien une religieuse qui allait à l'harmonium, puis elle suivait le livre, les notes du livre. Mais nous, on ne chantait pas comme ça. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit vulgairement. Et je savais, en effet, que ceux qui ont fait ce livre-là, donc, étaient quelquefois embarrassés. Ils disaient donc, nous avons été obligés de tenir compte des règles de la musique classique, parce que certains cantiques, donc, ne respectaient pas, donc... Et moi, j'avais compris, déjà à l'époque, donc, que les prêtres qui faisaient ça n'étaient pas assez informés. Ils avaient cru bien faire d'imposer un corset à la musique bretonne, comme on dit, mais il ne fallait pas le faire. Et alors, cet exemple-là est celui-ci, donc, au lieu de chanter, c'est le cantique, donc, « Tcheren Melgardien ». Chère Melgardien de la Dame Jésus, ta rin dan ti rin dan ti dan rin tan. Tu sens pas, mais tu vois même qu'au geste que je fais, il y a une rythmique là qui n'est pas une rythmique mesurée. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Il y a une alternance de 1, 2, 3 et de 1, 2. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors, ça, c'était pas pensable. Ça n'existait pas, cette mesure 8-8 avec 3, 2 et 3. Or, c'était une mesure très ancienne, et c'est là que j'ai découvert ça, j'en ai parlé. Alors maintenant, j'ai des jeunes qui font des études supérieures de musique et qui savent ces choses-là. Il y en a même un qui est venu ici, je lui ai expliqué cette chose-là. Il est parti tout de suite, ça y est, j'ai le sujet de ma thèse, je suis bon. Il y avait donc une manière plus souple de chanter. Et que les musiciens modernes ne comprenaient pas. Et c'est cela qui m'intéresse beaucoup, de retrouver donc... Alors, ce qui est curieux, pour un autre cantique, alors que tu, que je crois que tu connais un petit peu, là, c'est l'autre lame. Alors, il est écrit dans le livre, ceux qui sont du pays breton, qui connaissent le cantique breton, connaissent tous ce cantique-là. Alors, vous voyez, je parle... Ta da da ta da ta da ta da da ta da ta. Il est marqué comme ça. Personne ne le chante comme ça, sauf si le maître de chœur tient tout son monde au bout de ses doigts, comprenez, et que l'organiste tient. Si on laisse la foule aller à son rythme, elle chantera. Deite ale na per vadel. Elle ne fait pas la tenue.
Alors, il y a deux styles différents, ou bien c'est simplement une petite erreur, une petite divergence qu'on a écrite sur le livre.
Mais non, c'est au départ, donc, cette formule-là, il est évident que cette formule mélodique-là, elle, au lieu de commencer par un appui, elle commence par un élan, et alors les musiciens modernes n'ont pas compris ça. Et c'est ça que je fais...
C'est le problème d'incompréhension, alors.
Mais bien sûr, oui, c'est parce que l'on était habitué à la musique française.
Il faut être dans la
tradition.
Dans le terroir breton pour comprendre la musique.
Et il y a tout plein de monde maintenant, pas le terroir breton, on peut faire des études aussi, il y a des gens maintenant qui ne sont pas... Parce que ces choses, on les retrouve ailleurs qu'en Bretagne. La Bretagne n'est pas un pays à part, le breton est un homme comme tous les autres, comprenez. Alors, c'est les mêmes règles d'acoustique, je suis persuadé que cette façon de chanter-là a été généralisée, mais elle s'est... perpétuer davantage en Bretagne à cause de la situation donc de la Bretagne qui est comme une presqu'île enveloppée d'eau. Mais ça, on reviendra là-dessus une prochaine fois, c'est assez intéressant. Je prendrai des exemples.
Bien, Pierre-Marcel Blanchard, le temps a passé bien vite en votre compagnie. Alors, on se propose de faire d'autres émissions avec vous. Vous allez nous parler de cette musique, de la musique bretonne.
Oui, on n'a pas dit grand-chose aujourd'hui, il y a plein de choses à dire, enfin, quoi.
Nous allons parler des mélodies bretonnes.
Oui.
Comment est venue la mélodie bretonne? Qu'exprime la musique, la mélodie bretonne?
Religieuse, hein?
Religieuse ou profane?
On peut parler d'autres aussi si on veut, parce que les deux sont imbriqués quand même, quoi, bien souvent. Hein.
Alors, Pierre-Marcel Blanchard, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.
Kenavo.
Au revoir. Kenavo.